France Culture, il est 12h30. Le journal Rosalie Lafarge, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Y aura-t-il un second tour en Bolivie? Le très lent des comptes se poursuit 4 jours après la présidentielle et le ton monte entre pro et anti Evo Morales. Il ne voulait plus de ce lieu d'apologie du franquisme. Le gouvernement espagnol fait exhumer aujourd'hui le corps de Franco de son monumental mausolée et nous serons sur place. La contre-attaque des éditeurs de presse française, ils vont porter plainte contre Google pour abus de position dominante. C'est la suite du feuilleton sur le droit voisin, décryptage et réaction de notre invité, le chef de file des députés modernes. Patrick Mignola. À suivre également dans cette édition, les inquiétudes toujours vives un mois après l'incendie de Lubrizol à Rouen. Le choix du nouveau candidat français pour la Commission européenne, Thierry Breton. Et puis le prix Sakharov, tout juste décerné à l'intellectuel ouïghour Ilham Tohti. L'interminable dépouillement se poursuit en Bolivie. Le pays attend toujours les résultats définitifs de la présidentielle de dimanche. Le socialiste sortant Evo Morales est quasi sûr et certain, dit-il, d'être réélu au premier tour. Son rival, le libéral Carlos Mesa, en espère un second. Face à l'incertitude et aux soupçons de fraude, pro et anti-Morales manifestent partout dans le pays. Le reportage à la passe d'Alice Campagnol.
Démonstration de force pour des milliers de partisans du président hier après-midi à La Paz. Ils veulent eux aussi montrer qu'ils sont très nombreux et déterminés.
Nous, on leur dit, ils ne reviendront pas au pouvoir, car ça nous a coûté de construire la Bolivie. Et nous sommes très contents du travail qu'a fait notre président Evo.
Eusebia, présente dans la foule, affirme comme beaucoup d'autres que s'il y a un second tour, elle est prête à lutter pour Evo Morales, son président.
Un second tour, impossible, il n'y arrivera pas, mais ça. Et puis nous sommes très bien préparés. Nous, les gens de la campagne, on va tout bloquer, on va rien laisser entrer dans la ville. Ni patates, ni légumes, rien du tout.
En parallèle de cette manifestation qui est restée pacifique, les étudiants de l'opposition se sont réunis devant la cour électorale. Il y a eu des heurts en fin de soirée et ils accusent toujours les autorités de fraude.
Nous sommes là pour dire notre désaccord avec tout ce que fait Evo Morales, avec la fraude qu'il a mise en place. Il ne respecte pas le vrai vote du peuple. Et c'est absolument faux que l'on est contre le vote des peuples indigènes. Des ruraux, nous, on est là à cause de la fraude.
Mais il semblerait que les deux camps, partisans et opposants d'Evo Morales, soient désormais irréconciliables.
Alice Campagnol à La Paz en Bolivie pour France Culture. La colère ne retombe pas au Chili. Des milliers de personnes se sont encore rassemblées hier pour dénoncer les inégalités économiques. Les mesures sociales et les excuses du président Piñera n'ont pas permis de calmer la contestation qui a déjà fait 18 morts en une semaine. Les appels à lutter contre les passeurs s'accumulent après la découverte de 39 corps au Royaume-Uni. Ils ont été retrouvés hier à l'est de Londres dans un camion frigorifique venu de Belgique. Rien ne permet d'affirmer pour l'instant que ces personnes étaient des migrants. Le chauffeur du camion a été arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Il a quitté son mausolée monumental de la vallée de Los Caídos à 50 km de Madrid. 44 ans après la fin de la dictature, le corps de Franco vient d'être exhumé en Espagne. Il est transféré dans un cimetière de la banlieue nord de la capitale, sous les yeux d'une poignée de nostalgiques de la période franquiste. À Madrid pour France Culture, Pierre Chaperon.
Ce n'est pas le temps frais qui a rebuté les quelques nostalgiques du franquisme. Entre vente de calendriers à l'image du dictateur et discussions, ils étaient une centaine à s'être rendus à El Pardo, là où dorénavant l'ancien dictateur sera enterré. Pour rien au monde, Miguel, drapeau de l'Espagne sur les épaules, n'aurait raté ça.
Je suis là par loyauté à une figure historique d'Espagne, un héros national. J'étais à la vallée de Los Caídos pour ses funérailles et je suis là aujourd'hui, ici. Et même si on nous empêche l'accès au cimetière, j'irai après pour pouvoir le saluer.
La cérémonie qui a débuté depuis 10h30 se déroule dans l'intimité. Le transfert du tombeau de Franco et cette journée rend triste et nostalgique Carmen.
Je suis venue pour remercier Franco. C'est grâce à ce qu'il a fait que nous sommes ce que nous sommes. Je suis très peinée par ce qu'il se passe. Aujourd'hui, on tue l'Espagne que j'ai connue, l'Espagne de mes parents, cette Espagne qui vivait en paix.
C'est une journée spéciale qui se déroule ici en Espagne. Une victoire de la démocratie, selon Pedro Sanchez, qui avait fait du transfert de la tombe de Franco une priorité au début de son mandat. Pas sûr pour autant que cela referme les blessures du passé.
Pierre Chaperon à Madrid pour France Culture. Donald Trump lève les sanctions imposées à Ankara pour son offensive militaire contre les Kurdes dans le nord de la Syrie. Le président américain parle d'un grand succès après la création d'une zone de sécurité russo-turque à la frontière avec la Turquie. Le ministère de l'Intérieur l'annonce à l'instant. Le bilan s'alourdit en France après les intempéries de ces derniers jours dans le sud du pays. Elles ont fait 3 morts précises. Tout de suite, un communiqué du ministère de l'Intérieur. Et c'était il y a tout juste 1 mois. Un épais nuage de fumée noire s'élevait au-dessus de Rouen. 10 000 tonnes de produits partaient en fumée dans l'incendie de l'usine Lubrizol, site classé Seveso, et de sa voisine Normandie Logistique. 1 mois plus tard, les inquiétudes et les interrogations sont toujours là. La population réclame un suivi médical. Et c'est indispensable pour le toxicologue et chimiste André Sicolella du réseau Environnement Santé.
À Seveso, 15 jours après l'accident, on a prélevé, en fait, 30 000 prélèvements de sang. Pas pendant une journée, mais enfin assez rapidement. Et on a suivi la population concernée depuis, on la suit d'ailleurs toujours depuis plus de 40 ans. Alors on sait aujourd'hui, effectivement, 40 ans après, que le fait d'avoir été exposé à la dioxine principalement, puisque le problème principal c'est celui-là, la dioxine, bien induit quasiment toutes les grandes maladies chroniques, à la fois chez les adultes, chez les enfants devenus adultes, et puis chez les enfants qui sont nés, qui ont été exposés pendant cet accident. Donc, dans la mesure où on est sur un scénario assez proche, je pense qu'il faudrait effectivement mettre en place ce type de surveillance. Mais on voit bien que ce n'est pas du tout la stratégie qui a été suivie. On est sur une stratégie de dire, voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Voilà. C'est une stratégie, je dirais, à l'ancienne. C'est-à-dire que le mot qui est revenu régulièrement, il faut rassurer. Il faut rassurer. Mais on ne rassure pas pour le principe de rassurer. On regarde quelle est la réalité du problème. Et à partir de là, on peut effectivement définir une stratégie et non pas faire l'inverse.
Le toxicologue André Sicolella avec Véronique Rebérotte. Véronique qui est allée à Rouen pour France Culture 1 mois après cet incendie. Son reportage est à réécouter sur franceculture.fr. Une décennie de mise en garde n'aura pas suffi. La France dépasse toujours systématiquement le seuil limite de dioxyde d'azote selon la justice européenne. Ce gaz polluant issu des moteurs de nos voitures étouffe de nombreuses agglomérations, précise la Cour de justice qui condamne mais ne sanctionne pas pour l'instant. L'Élysée veut éviter un nouveau camouflet. 2 semaines après le rejet de Sylvie Goulard par les parlementaires européens, Emmanuel Macron lui a trouvé un remplaçant pour la Commission européenne. Le président propose Thierry Breton. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
L'ancien ministre de l'économie et actuel patron du groupe Atos coche de nombreuses cases.
Oui, et il n'y avait surtout pas 36 solutions pour Emmanuel Macron. Le portefeuille réunit la politique industrielle, le marché intérieur, le numérique, l'espace et la défense. Portefeuille négocié par le chef de l'État, il ne voulait retirer aucun champ. Alors évidemment, c'est extrêmement large, peu de personnes remplissait les critères, sachant qu'en plus à ce niveau, il faut une sacrée surface politique. Côté politique, justement, Thierry Breton a été formé par l'UDF René Monory avant de prendre son envol sous Jacques Chirac. Il est son ministre de l'économie entre 2005 et 2007 et à ce poste, il a la charge de l'industrie. À la primaire de la droite, en 2017, il soutient Alain Juppé avant de se rallier à Emmanuel Macron après le retrait du maire de Bordeaux. L'Élysée fait valoir sa réputation solide d'homme d'action, lui qui a été PDG de grands groupes comme Thomson, France Télécom et ces dernières années Atos. Atos, une entreprise de services du numérique cotée en bourse, elle est championne en Europe sur les marchés de la cybersécurité et des supercalculateurs. Et à ce titre, elle a reçu cette société d'importantes subventions européennes. Alors pour rassurer le Parlement européen qui a déjà recalé Sylvie Goulard, Thierry Breton devra dire quel garde-fou il compte trouver pour éviter de se retrouver en situation de conflit d'intérêts. Certains eurodéputés tiraient déjà à boulets rouges ce matin, comme l'écologiste Yannick Jadot ou l'insoumise Manon Aubry. Quant à Thierry Breton, pas de prise de parole publique, juste un communiqué de la société Atos où il se montre tout occupé à la préparation de ses auditions. Auditions qui pourraient avoir lieu à la mi-novembre selon la représentation française de la Commission à Paris.
Anne Fauquemberg. Une polémique en chasse une autre. Sandro Gozzi renonce. L'ancien secrétaire d'État italien quitte son poste de chargé de mission à Matignon. Bonjour Pierre Nebeu.
Bonjour.
Le Premier ministre Édouard Philippe lui réclamait des explications après des révélations dans la presse.
On peut parler d'un passage éclair à Matignon pour l'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes de Matteo Renzi. Arrivé début août, le diplomate italien quitte le cabinet d'Édouard Philippe sous la pression, 3 mois plus tard. Une démission à contre-cœur, explique Sandro Gozzi. Déjà cet été, sa nomination à Matignon avait suscité de vives critiques d'une partie de la classe politique italienne, criant à la trahison et réclamant même sa déchéance de nationalité, rien que ça. Mais c'est en tout début de semaine que Sandro Gozzi s'est mis en difficulté en expliquant au journal Le Monde avoir cumulé son emploi de conseiller à Matignon avec un autre emploi de conseiller du Premier ministre de Malte, version qui a été corrigée par la suite. Trop tard, la polémique sur des soupçons de conflit d'intérêts a pris corps ce mardi à l'Assemblée nationale lors de la séance des questions au gouvernement. Sommet de s'expliquer, le Premier ministre Édouard Philippe est monté au front pour tenter de sauver le soldat Gozzi.
Je voudrais vous dire que tous ceux qui ont l'honneur de servir la France en travaillant au sein d'un cabinet ministériel doivent être, lorsqu'ils font l'objet d'une attaque politique, défendus par le chef du gouvernement. Mais que le chef du gouvernement exige d'eux une parfaite probité et le respect de toutes les règles qui s'imposent à tous ceux qui ont l'honneur de servir la France.
Probité, respect des règles. Aujourd'hui, Sandro Gozzi démissionne pour, dit-il, protéger Édouard Philippe. Son avenir pourrait s'écrire au Parlement européen de Strasbourg puisqu'il fait partie des 5 eurodéputés élus qui pourront siéger au départ des Britanniques après le Brexit. Sandro Gozzi a été élu sur la liste LREM conduite par Nathalie Loiseau.
Pierre Neveu. Emmanuel Macron tend la main à l'intersyndicale réunionnaise. Elle refuse. En visite à la Réunion depuis hier, le président a été accueilli par une grève générale. Il a proposé aux syndicats de les recevoir. Ce matin, proposition déclinée. Les éditeurs de presse n'ont pas dit leur dernier mot à Google. C'est aujourd'hui qu'entre en vigueur en France le principe du droit voisin. Voté par le Parlement européen en juillet, il impose aux grandes plateformes Internet de payer les éditeurs de presse quand elles partagent leur contenu, sauf que Google refuse. Bonjour Maxime Tellier.
Bonjour Rosalie, bonjour à tous.
Les éditeurs de presse décident aujourd'hui de porter plainte contre Google.
Oui, nous sommes révoltés, ce sont les mots du président de l'Alliance de la presse générale, Jean-Michel Baylet, ce matin lors d'une conférence de presse spéciale organisée à Paris. Toute la presse nationale, régionale, magazine spécialisée était là. Après la tribune signée par plus de 800 journalistes hier, c'est une nouvelle démonstration d'unité face à cette décision de Google, jugé indigne, contraire au principe du droit, contraire à l'éthique, sont les mots qu'on a pu entendre ce matin. Pierre Louette, le patron du Parisien et des Échos, ex-patron de l'AFP, était là aussi. Il explique pourquoi il faut absolument résister à ce qu'il qualifie de coup de force.
La presse écrite, elle a perdu la moitié de ses revenus publicitaires en 10 ans. C'est ça son contexte. Et par ailleurs, elle a dû commencer à s'adapter comme elle pouvait à cette émergence des plateformes digitales et donc aux consommations qui sont faites de nos contenus de plus en plus par ces plateformes, sur ces plateformes. On sait que Google représente 90% à peu près de part de marché dans la recherche. Et donc, c'est difficile de vivre sans Google aujourd'hui. Il y a une forme de dépendance économique qui s'est créée. Donc, ce qui est posé, au fond, c'est la question des modèles économiques. Et puis, par ailleurs, une question de principe qui est, peut-on décider de ne pas vraiment appliquer une loi de s'organiser pour la contourner, quitte à modifier son produit et imposer cette interprétation-là à des gens qui sont en état de dépendance économique. Moi, je pense que non et qu'on ne doit pas céder à ça.
Et les éditeurs présents ce matin ont annoncé qu'ils allaient déposer plainte la semaine prochaine auprès de l'autorité de la concurrence pour abus de position dominante de la part de Google. Il en va de leur avenir économique, mais aussi de la crédibilité de nos institutions. Et ce combat est important. La France est le premier pays qui applique le droit voisin en Europe. La bataille juridique judiciaire qui va se jouer dans notre pays aura donc des conséquences pour toute l'Union européenne, peut-être le reste du monde aussi, pour le respect du droit des créateurs de contenu.
Et pour aller plus loin, nous sommes avec le chef de file des députés Modem à l'Assemblée nationale. Bonjour Patrick Mignola.
Bonjour.
Et merci d'être en direct avec nous depuis les studios de France Bleu Pays de Savoie. Vous êtes député Modem de Savoie. Vous avez été le rapporteur en France de la loi qui a instauré ce droit voisin. Alors, on l'a entendu, les éditeurs de presse appellent à une contre-attaque des pouvoirs publics. Quelle contre-attaque est possible aujourd'hui ?
Ils ont parfaitement raison, parce qu'il faut qu'il y ait une mobilisation générale, et je suis très heureux et je les en félicite que tous les éditeurs de presse, les agences de presse, les journalistes, les photographes se soient retrouvés entre eux et sans la moindre concurrence avec un seul objectif, c'est celui effectivement d'appliquer la loi. Et ils doivent savoir, que même si je suis député Modem, que tous les mouvements politiques, parce que cette loi a été votée à l'unanimité à l'Assemblée nationale et au Sénat, sont à leur côté.
Maxime Tellier.
Il y a quand même une forte impression d'impuissance de la part des éditeurs de presse, pour l'instant en tout cas, qui ont tous accepté de renoncer à leurs droits face à Google. Alors c'est compréhensible, hein, de peur de perdre une très grande partie de leur audience, mais aussi des pouvoirs publics. On nous expliquait que cette loi adoptée à l'échelle de tout le continent européen allait permettre d'instaurer un rapport de force face à Google. Pour l'instant, ça ne marche pas. Alors qu'est-ce qui est possible de faire? Quelle est la réponse que vous souhaitez des pouvoirs publics?
Mais c'est maintenant que le rapport de force se joue. On a Google qui est en abus de situation dominante. Qui dit qu'il est prêt à reconnaître qu'il existe un droit voisin, c'est-à-dire une utilisation du travail qui est fait par les journalistes sur Internet, si et seulement si la presse et les journalistes renoncent à exercer ce droit. C'est un peu comme si un chef d'entreprise reconnaissait que vous avez droit à congé payé si et seulement si vous ne prenez pas de vacances, voire que vous avez droit à un salaire si et seulement si vous renoncez à le toucher. Donc, nous avons prévu dans cette loi que si personne ne voulait négocier ou négocier en tordant le bras de la presse, c'est à la puissance publique, c'est-à-dire en l'occurrence au ministère de la Culture, de convoquer l'ensemble des parties en présence. C'est la première initiative qu'il faudra prendre évidemment dans les semaines qui viennent. Et il y a d'autres initiatives qui peuvent être prises. D'abord la saisine des instances européennes, c'est ce qu'a fait la presse ce matin sur l'autorité de la concurrence, sur l'abus de position dominante. Je crois aussi qu'il faudra qu'on soit en capacité de démanteler les trusts. Parce qu'aujourd'hui, Google, mais au-delà de Google, l'ensemble des GAFA se permettent de s'affranchir de la loi, tout simplement parce qu'ils sont en situation de surpuissance. Et on ne peut pas à la fois mépriser la presse et mépriser l'ensemble des démocraties qui pourtant leur ont permis de fleurir et de prospérer sans qu'il y ait de sanctions. Mmh. Et donc c'est à nous d'organiser un système de sanctions exactement comme nous l'avions fait sur les impôts quand ils décidaient de ne pas payer d'impôts. Mmh.
Le démantèlement des GAFA, c'est d'ailleurs l'un des thèmes de la campagne électorale présidentielle aux États-Unis. On parle de Google, hein, dans cette affaire depuis un mois, depuis que le moteur de recherche a changé ses conditions d'utilisation, mais assez peu de Facebook, qui est pourtant important aussi dans le marché publicitaire. Est-ce que ça veut dire que ce réseau social est plus coopératif?
Alors pour le moment, Facebook ne s'est pas exprimé. Mais je voudrais rappeler, s'agissant de Facebook et de tous les réseaux sociaux en général, qu'au-delà de la vente de publicité, qui est autant de publicité que la presse n'a plus, il y a également l'exploitation des données personnelles pour mieux cibler la dite publicité. Et ce sont finalement deux grandes sources que vous, journalistes, et que l'ensemble de la presse française leur apporte. Puisque selon qu'on écoute France Culture ou qu'on lit L'Équipe, on va être profilé par Facebook ou par les autres réseaux sociaux, et la publicité sera vendue d'autant plus cher qu'on aura été ainsi profilé. Et donc finalement, tout le travail qui est fait par la presse démocratique en France et partout dans l'Union européenne permet à ces entreprises non seulement de toucher de la pub, mais également d'exploiter l'ensemble des données personnelles. Je pense que sur le sujet des données personnelles et de la protection de la vie privée, sur le sujet de l'abus de position dominante par les grands trusts que sont devenus les GAFA, et tout simplement sur le principe démocratique que même quand on est une grande entreprise, on doit appliquer la loi et que la loi, c'est pas la loi du plus fort, nous pouvons résister à Google et à Facebook.
Et une dernière question sur ce sujet, quel est le montant de la rémunération que Google pourrait verser à la presse? Est-ce qu'on a un ordre d'idée?
Moi, je considère que s'agissant d'un droit qui n'est pas un droit culturel, le droit culturel, c'est le droit d'auteur, mais d'un droit économique, il faut que ce soit la négociation qui ait sa place. Il y a des grands investissements qui sont réalisés, évidemment, par ces plateformes et par ces hébergeurs. Il y a des grands investissements qui sont réalisés par la presse. Et c'est forcément une négociation d'équilibre entre les deux.
Donc,
mais je vous donne
de...
un chiffre.
Ah,
les revenus publicitaires en France générés sur Internet sont de 3 milliards. Les GAFAM, c'est l'homme qui valait 3 milliards. Lorsque François Hollande a négocié un fonds Google pour l'ensemble du continent européen en 2016, c'était 250 millions. De 250 millions à 3 milliards, je pense qu'un bon équilibre doit être trouvé pour que la presse vive dans ce pays et pas seulement survive.
Patrick Mignola, quelques questions sur l'actualité politique de ces derniers jours. On en parlait tout à l'heure, on a appris ce matin le nouveau choix d'Emmanuel Macron pour la Commission européenne. Vous dénonciez au Modem le choix de Sylvie Goulard. Thierry Breton, alors bon choix cette fois ?
Alors, c'est pas qu'on le dénonçait, on va pas faire de langue de bois.
Vous ne le félicitiez pas.
On n'était pas très attaché à la candidature de Madame Goulard parce qu'on la connaissait, elle était passée par le Modem. où elle avait obtenu un poste de député européen pour ensuite quitter le parti. Donc on appréciait pas tellement ce genre de choses.
Bon, et Thierry Breton, du coup, c'est un bon
mais
candidat de remplacement.
Le choix de Thierry Breton, surtout, c'est le choix d'un capitaine d'industrie. C'est le choix de quelqu'un qui a déjà réussi, c'est le choix de quelqu'un qui connaît le numérique. Et relativement au sujet qu'on évoquait à l'instant, c'est très intéressant d'avoir un commissaire européen qui connaît parfaitement le monde du numérique pour pouvoir faire rentrer en démocratie, faire rentrer en état de droit les GAFAM. Au-delà, je pense que, à la différence de Sylvie Goulard, effectivement, c'était une personnalité qui n'était pas inquiétée. Et moi, je suis très attaché à la présomption d'innocence, et en l'occurrence, Madame Goulard pourra se défendre et défendre son honneur, parce que même si on n'apprécie pas une personne, il faut savoir la respecter. En revanche, Thierry Breton n'ayant jamais été inquiété, j'espère qu'il pourra être confirmé par les parlementaires européens.
L'avenir nous le dira. Sur la réforme des retraites, Patrick Mignola, François Hollande disait hier, ça fait 2 ans qu'Emmanuel Macron parle de cette réforme dont on ne voit pas le début d'une négociation. Vous lui répondez quoi ?
Bah que lui, il n'en avait même pas parlé pendant 5 ans, et que surtout, il faut regarder l'avenir. Peu importe si François Hollande veut continuer à se signaler à l'opinion publique à période régulière, il peut envoyer toutes les cartes postales qu'il veut. Nous, on souhaite avant tout faire la réforme des retraites. Et il faut...
La bataille s'annonce longue et douloureuse, quand même.
Et surtout, le sujet est un sujet majeur. Parce que ça fait 30 ans qu'on connaît le sujet. Ça fait 30 ans qu'on sait que mes enfants n'auront pas de retraite si nous ne sommes pas en capacité de réformer ce système. Et que globalement, la société ne pourra pas se réconcilier si on continue de faire cohabiter un régime général, des régimes autonomes, des régimes spéciaux. Il faut respecter celles et ceux qui aujourd'hui disposent de retraites différentes pour les faire converger dans le temps et dans le long temps. On n'est pas là pour faire des économies, on est là pour faire de la justice.
Et donc vous
Mais
irez...
surtout, à travers la réforme des retraites, il faut qu'on se pose la vraie question de société qui est devant nous. C'est notre rapport au travail et le rapport à la fin de la vie au travail. À partir de 55 ans, s'il nous reste 7 ans, 8 ans, peut-être 10 selon les métiers à travailler encore, comment on pense la transmission? Comment on pense le fait qu'on est au plus haut niveau d'expérience dans sa vie professionnelle, mais qu'il nous faut la transmettre? L'idée de la transmission, l'idée de la fin de carrière professionnelle quand on est très solide intellectuellement, très expérimenté professionnellement, mais moins solide physiquement, c'est ça le vrai projet de société.
Et toutes ces questions sont en tout cas sur la table. Patrick Mignola, député de Savoie, président du groupe Modem à l'Assemblée, merci d'avoir été avec nous en direct dans ce journal. Merci également à Maxime Tellier et à France Bleu Pays de Savoie qui a permis la réalisation de ce duplex. LCI fermement mise en garde par le CSA en cause, la diffusion en direct et en intégralité d'un discours controversé d'Éric Zemmour fin septembre. Le gendarme de l'audiovisuel a fait un signalement au procureur de la République de Paris alors qu'une enquête pour injures publiques et provocation à la discrimination est ouverte. En pleine crise des gilets jaunes, les banques avaient pris des engagements. Promesse était notamment faite de plafonner les frais bancaires à 25 euros pour les clients en difficulté. Aujourd'hui, le compte n'y est pas. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par le magazine 60 millions de consommateurs et l'Union nationale des associations familiales, Anne-Laure Jumet.
Pour mener cette enquête, une centaine de clients mystères ont été envoyés dans des réseaux bancaires en juin et juillet dernier. Parmi eux, des clients surendettés ou interdits bancaires et des personnes ayant des revenus compris entre 1 000 et 1 800 euros par mois avec des frais supérieurs à 40 euros mensuels. Eh bien, pour près de 8 clients sur 10, le conseiller bancaire n'a fait aucune proposition de plafonnement à 25 euros. Et c'est particulièrement vrai pour ceux qui ne sont ni surendettés, ni fiché à la Banque de France, car pour définir un client fragile, chaque banque a ses critères, dénonce Fabien Toquet, coordinateur du pôle consommation à l'UNAF.
C'est souvent un cumul de différents critères. En général, des revenus assez bas, ainsi qu'un cumul de frais d'incident lors d'une période récente, voire des critères supplémentaires que peuvent rajouter chaque banque. Et le problème, c'est que ces critères subjectifs, ils peuvent être très restrictifs d'une part, et surtout, ils ne se sont pas toujours rendus publics. On a créé un droit, mais le client n'a pas les moyens de s'en prévaloir.
Alors précisons que dans un tiers des cas testés, il y a eu remboursement d'une partie des frais pour une moyenne de 92 euros. La Fédération bancaire française n'a en tout cas pas tardé à réagir, renvoyant aux derniers chiffres de la Banque de France, estimant les progrès significatifs. Près d'1 million de clients en difficulté ont bénéficié d'un plafonnement sur les 6 premiers mois de l'année, avec des frais d'incidence élevant en moyenne à 17 euros par mois.
Anne-Laure Jumet. Il récompense depuis plus de 30 ans la liberté de l'esprit et la lutte pour les droits de l'homme. Le prix Sakharov vient d'être attribué par le Parlement européen. Bonjour Johanna Hochstein.
Bonjour.
En direct de Strasbourg, Johanna, le prix Sakharov est décerné cette année à l'intellectuel ouïghour emprisonné Ilham Tohti.
Ilham Tohti, un économiste, écrivain et professeur ouïghour qui lutte pour les droits de cette minorité musulmane persécutée dans l'ouest de la Chine. Actuellement, plus d'un million de ouïghours sont détenus dans des camps d'internement dans la région du Xinjiang. Les autorités de Pékin les considérant comme des séparatistes. En 2014, après un procès de 2 jours qui a suscité une levée de boucliers à l'étranger, Ilham Tohti est condamné à la prison à vie. Le Parlement européen demande aujourd'hui sa libération immédiate. Les eurodéputés qui saluent une figure de modération et de réconciliation entre les Ouïghours et le peuple Han. Ilham Tohti, qui a été soutenu par la droite et le groupe Renew au Parlement européen, les socialistes, les verts et les communistes défendaient eux la candidature d'activistes brésiliens, celle de Marielle Franco notamment, qui militait pour les droits des jeunes noirs, des femmes et des personnes LGBT jusqu'à son assassinat en mars 2018. Le prix Sakharov qui sera remis au Parlement européen à Strasbourg le 18 décembre prochain.
Johanna Hochstein à Strasbourg pour France Culture. Le temps pour cet après-midi reste très perturbé en Haute-Corse. Le département est en vigilance orange, pluie, inondation et orage. Sur le continent à l'ouest, le programme est pluvieux. À l'est, plutôt ensoleillé, même si les nuages sont de la partie. Ce journal a été réalisé avec Nicolas Paumet et Clément Daté. Prochain rendez-vous de la rédaction à 18h.